Micro, microscopie, suite, suite, microscopie, suite. Édouard Zambo.
Retour dans Microscopie pour la seconde partie de cette émission consacrée à l'hébergement dans les hôtels meublés ou de tourisme. Nous sommes toujours en compagnie de Claire Lévy-Vrovelan, sociologue, spécialiste de l'habitat et auteur d'Une chambre en ville, aux éditions Créafis, un livre, que dis-je, une somme sur le sujet. Avec nous aujourd'hui également Benoît Bureau, enseignante de lettres à l'université, mais surtout, je l'ai dit tout à l'heure, militante de l'association Droit au logement, l'association qui depuis plus de 20 ans est en pointe sur ce combat, ça fait combien ?
17 ans.
17 ans. Avant de reprendre notre conversation et de voir comment et pourquoi des familles se retrouvent à vivre de manière durable, j'ai bien dit durable, dans des hôtels, je vous propose tout de suite de partir dans l'un de ces hôtels justement, celui qu'occupe la famille Diaby, c'est dans le 19e arrondissement de Paris. La famille Diaby, elle a déposé sa première demande de logement social en 1979 et elle vit dans cet hôtel depuis plus d'un an. Céline Develay est donc allée à la rencontre des Diaby un week-end, car c'est le seul moment de la semaine où les familles de cet hôtel sont autorisées à accueillir des visiteurs.
microscopie@rfi.fr.
Déjà, j'habite à un hôtel.
Je sais pas.
Ça le fait pas trop. Dans ma classe, pratiquement personne le sait. Il n'y a que des amis proches qui le savent, mais pas les autres amis.
J'habite en face du Leader Price. Pas plus.
Mais alors toi, avec tes copains de classe, des fois, j'imagine, vous faites le chemin ensemble. Tu leur dis où c'est ta maison ou tu...
Pas trop, j'habite en fait. Enfin, quand ils me disent, ça t'habite où, moi, je dis, j'habite tout droit là-bas. Enfin, je dis pas... Je sais pas exactement où.
En même temps, c'est pas honteux.
Si, quand même. C'est un problème.
Alors, la vie, comme elle se passe ici, c'est qu'on est tous dans une chambre qui fait à peu près 5 à 10 mètres carrés. C'est très, très petit. Nous sommes très, très serrés. Et donc, au quotidien, nous vivons ici avec ma petite sœur ainsi que mon petit frère, en plus de moi. Donc, il y a un grand lit pour 5 mètres carrés. Comme vous pouvez le constater, c'est très, très petit. Il y a une petite...
Sur lequel je suis assise,
ouais,
là. Juste en face, vous avez micro-ondes.
Oui, un micro-ondes. Et par-dessus, il y a la télé parce qu'il n'y a pas de place. Il y a une petite friteuse pour pouvoir faire les frites, pour manger, et une plaque chauffante avec une petite table qui est située à côté.
Et juste à côté du lavabo. Et il n'y a pas de salle de bain ?
Oui, en fait, il y a une salle de bain, mais elle est pour tout l'étage. C'est-à-dire que dans chaque étage, on dispose d'une salle de bain et des toilettes. Donc, voilà comment ça se passe au quotidien, à peu près.
D'accord. Donc là, vous êtes 5, en fait, sur 2 chambres. Ce serait possible, avec vous, Mariama, qu'on aille voir discrètement dans l'autre pièce ?
Ouais, pas le...
Donc là, c'est notre chambre.
Ouais.
Ça, c'est ta chambre, Mariama ?
C'est ma chambre. Bon, heureusement qu'elle est un tout petit peu plus grande, mais moi, je dors ici pratiquement tous les jours et au quotidien, on reste ici. Donc, il y a un petit frigo, parce que vu qu'il n'y a pas de place dans l'autre chambre, on a été dans l'obligation de reprendre encore une autre chambre pour pouvoir mettre le frigo. Il y a un petit radiateur à côté, la valise, 2 lits et le petit lavabo à côté. Donc, voilà. Au quotidien, c'est comme ça, et c'est trop petit. On ne peut pas se permettre d'accueillir nos amis parce qu'on vit dans des conditions pas très évidentes. On n'a pas le choix, on est dans l'obligation d'accepter ces choses-là.
Donc toi, là, tu dors ici, dans ce lit-là ?
Oui, avec mon petit frère et ma mère, elle dort avec ma petite sœur dans l'autre chambre. De toute façon, on est obligé de prendre 2 chambres, sinon il n'y aurait pas de place dans 10 mètres carrés. Comment voulez-vous que 4-5 personnes vivent dans une pièce à 10 mètres carrés, 2 chambres que l'on paye 3 000 et quelques par mois ? 3 700.
Combien, madame ?
3 720. Moi, j'ai payé 745.
Et le reste, c'est payé par...
Le reste, c'est la mairie qui paye. Mon fils, qui a 19 ans, il dormait par terre.
Il est clair qu'il n'y a aucune intimité. On est obligé de...
Faire comme ça.
On vivre comme ça. En gros, on n'a pas le choix. En sachant que ça fait un an et demi qu'on a fait une demande et on est obligé de vivre dans ces conditions-là.
On est obligé de s'organiser.
C'est pas une vie. Ici, l'hôtel, là, c'est pas une vie. C'est là que, quand Mme Boutaille dit qu'on tournait dans notre hôtel, on a dit non. Les policiers nous expulsaient 5 fois. Toujours, les familles ne veulent pas quitter dans le lieu à cause de ça. Ça, c'est pas une vie. Il faut que nous donnions les logements parce qu'il y a des logements vacants. On passe quoi à côté. Il y a des constructions qui sont finies. Ils ont fermé la porte. On ne veut pas. On ne veut pas.
Et où est-ce que les enfants ils font leurs devoirs ? Est-ce qu'il n'y a pas de bureau ?
Dans le lit. Il fait le devoir dans le lit. Même au moins, c'est dans le lit.
C'est ou sur le lit ou par terre, parce que comme vous le voyez, il n'y a pas de place, on ne peut pas mettre de table ou quoi que ce soit pour pouvoir manger convenablement comme le font pratiquement toutes les familles de France, manger à table. Donc nous, on ne peut pas faire ça, on est obligé de manger dans les lits séparément, chacun dans son coin. Et donc voilà, on a subi ça pendant un an et c'est dommage.
Alors comment ça se passe avec les gens de l'hôtel? Parce que normalement, c'est un hôtel, on n'a pas vraiment le droit de faire la cuisine dans sa chambre.
Non, pour propriétaire, il a accepté pour toutes les familles, parce que c'est très galère, tous les jours aller acheter un sandwich. Trop cher pour nous, c'est pas invidable. Il a accepté qu'on peut mettre un petit plat qui s'offre, c'est mieux ça.
Alors vous dites les familles, ça veut dire que vous n'êtes pas toute seule dans cet hôtel?
Non, on n'est pas tout seul. Il y a de toute façon, il n'y a que des mères de famille.
Donc on ne sort pas parce que bon, c'est pour pas non plus se montrer vis-à-vis du gérant.
Ouais.
Mais si je comprends bien ici, il y a quoi? Il y a trois étages?
Il y a trois étages avec que des enfants et des mères de famille. Voilà. Il y a deux à trois enfants. Il y en a, et ça fait 2-3 ans qu'ils sont là. Ils attendent aussi des logements sociaux, mais rien. Donc il y en a, ça va faire 2-3 ans, il y en a même 5 ans, ils sont restés dans ces conditions-là. En sachant qu'à côté, ils ont fait les démarches à faire pour avoir un logement sociaux ou quoi que HLM ou OPAC, rien.
Cet hôtel, en fait, il n'y a que des gens qui vivent là de façon durable, comme vous, avec des enfants.
Oui, exactement.
Si chaque famille paye à peu près, combien vous avez dit, 3 000 euros?
C'est la même. Chaque chambre ici, 60 euros par jour.
Ouais.
Deux chambres, 120 euros.
Moi, je trouve que c'est énorme.
Toi, Mariama, tu as 22 ans.
Ouais.
Et alors, tu pars assez facilement là avec moi. Tu veux montrer un petit peu qu'est-ce que c'est que la vie à l'hôtel et les conditions de vie. Est-ce que tu le fais aussi à l'extérieur?
Pas du tout.
Ou est-ce que t'as...
C'est honteux un peu de dire ça, de dire qu'on habite dans un... Même parfois, quand il y a des... Parfois, on doit remplir des papiers par administratif et c'est honteux de dire oui, j'habite dans un hôtel. Ça le fait pas trop. Je considère que cet hôtel, c'est pas chez moi, c'est une maison de dépannage. Voilà, moi j'appellerais ça comme ça, en attendant d'avoir un logement convenable.
Le linge sale, c'est par la fenêtre.
Et donc là, on est à la fenêtre?
Voilà, on met le linge sale par la fenêtre.
Sur le petit balconnet, là?
Voilà, c'est là, petit là. C'est tout. C'est pas une vie. Voilà, vous l'avez compris. Il n'y a pas de caméra, mais vous l'avez vu, vos propres yeux. Ça.
Et pour vous, c'est important de montrer?
Oui. C'est important. Voilà.
On la voit comme ça, elle a l'air heureuse, mais elle n'est pas du tout.
Ta maman?
Ouais.
Ben, elle n'est pas heureuse d'être à l'hôtel ici. Elle préfère être chez nous.
Claire Lévy-Bruelant, qui sont-ils les gens qui habitent dans les hôtels à Paris?
Alors écoutez, on a donné quelques éléments sur le dernier recensement, enfin le recensement de 99, mais qui montre que c'est une majorité d'hommes seuls.
Mais dont la proportion baisse et une minorité de familles dont la proportion augmente. Hein.
C'est ça, et effectivement l'intervention publique contribue, puisqu'il y a ce financement des nuitées, à utiliser les chambres d'hôtel comme une solution par défaut, et on voit bien dans de très mauvaises conditions pour les familles.
Est-ce qu'il y a toujours eu un caractère à travers l'histoire comme disaient ces deux jeunes filles, hein, ce côté honteux? Est-ce que ça, c'est pérenne à travers les...
Oui, alors ça, on en avait beaucoup discuté avec Alain Faure, mon collègue
qui est co-auteur. Avec qui vous en ville.
Et effectivement... C'est probablement un secteur qui a toujours été victime d'une image disqualifiante et même stigmatisante. Le Garni, comme on l'appelait autrefois, ou l'hôtel meublé, c'est le lieu où on va quand on n'a rien, quand on n'a pas de meubles et quand on a un petit ballot sur l'épaule de migrants. Alors, il y a des témoignages, même illustres, comme celui de Jules Vallès, par exemple, qui avait sa chambre. Alors, on est bien content quand on arrive.
Jack London à Londres aussi, les bas-fonds.
Alors, Jack London, mais oui, absolument, ou George Orwell, qui compare d'ailleurs l'hospitalité des hôtels meublés parisiens dans les années 30, comparé aux horribles casernes des Roston Houses en Angleterre, et qui dit que bon, il y a peut-être des puces et de la vermine, mais au moins il y a le sourire de l'hôtelière et que ça peut aussi donner lieu à une vie supportable quand c'est momentané. Et tout le problème est là, c'est qu'aujourd'hui on est dans une situation où ces familles sont pas là pour une solution d'urgence, mais elles sont là et elles vont y rester. Et c'est ça qui est absolument...
Ça devient une nasse, dites-vous.
Ça devient une nasse, oui, c'est ça.
D'un tremplin, alors, c'est devenu une nasse.
Oui,
c'est...
mais ceci dit, moi je voudrais revenir sur la question de la durée, justement, parce que bon, on dit, faisons à ce moment-là, mettons en place des dispositifs pour que la durée de séjour à l'hôtel soit limitée, alors comme en Écosse à 14 jours ou en Angleterre, peu importe. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est-à-dire que c'est le même raisonnement, finalement, qui a été tenu par les professionnels qui travaillent travaillent dans les structures de type CHRS ou hébergement d'urgence, si on limite le temps de séjour, mais on ne va pas du tout dans l'intérêt des gens, à mon avis.
Vous craignez que si on limite le temps de séjour, on les remette à la rue, c'est
vrai? Mais bien sûr, il n'y a pas de solution derrière. Ces familles-là, pour des causes qui sont aussi liées à des questions de stigmatisation et de discrimination, bon, il ne faut pas avoir peur des mots. Je veux dire que ce soit dans le public ou dans le privé, il y a des pratiques qui excluent des familles originaires d'Afrique en particulier, qui sont à proprement parler incasables.
Vous Benoît Bureau, ça vous révolte, hein, je vous voyais trépigner sur votre chaise.
Ces familles ne sont pas incasables, elles ne sont pas logées, c'est pas pareil.
Quand on leur dit, comme l'a dit il y a quelques semaines, avant de changer un petit peu d'avis, hein, la ministre du Logement, que finalement c'était mieux que rien, qu'est-ce que ça vous inspire, vous?
Ce qui nous touche surtout, c'est qu'il y a d'autres possibilités, et pourtant on maintient les gens dans ces hébergements qui sont de mauvais hébergements, parce que ce sont de mauvaises conditions de vie, un, et deux, parce qu'il y a une précarité qui est extrêmement grande. Alors, juste une seconde pour revenir sur la question de la honte sociale. Effectivement, c'est pour ça qu'il y a une honte très forte, hein, mais c'est pareil pour les gens qui sont en bidonville ou pour les gens qui sont menacés d'expulsion, par exemple. C'est pour ça que la lutte des familles de la rue de la Banque, elle est d'autant plus exemplaire. Parce qu'elles ont accepté de témoigner de leur situation. Madame Diaby est rue de la Banque depuis le 3 octobre. Elle mène ce combat qui est très dur et qui a été durement réprimé, puisqu'il y a eu 6 évacuations de police. Et ces familles ont parfaitement compris qu'elles ne sont pas incasables, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fatalité dans leur situation et que ce n'est pas de leur faute, mais qu'il y a une volonté délibérée de ne pas les loger. Puisque des solutions sont possibles, alors effectivement, si on met les gens en dehors des hôtels avant d'avoir trouvé des solutions, ce n'est pas une bonne idée. En Angleterre, il s'est passé l'inverse. C'est-à-dire que d'abord, on a sorti les gens des hôtels et ensuite, on a mis une durée limitée. Je m'explique. Dans les années 70, il y a eu une obligation d'hébergement pour les publics vulnérables. Les publics vulnérables, ce sont certes les familles avec enfants, mais aussi les jeunes majeurs isolés, les personnes âgées, les malades, les toxicomanes, tout un tas de gens assez différents, mais qui sont considérés comme vulnérables.
Auxquels les propriétaires privés sont assez peu poussés à signer un bail.
Absolument.
Ça, il faut le reconnaître.
Qui sont, on va dire, discriminés dans le parc privé et qui ne peuvent pas accéder au parc social faute de construction suffisante. Donc l'obligation d'hébergement en Angleterre était pour l'ensemble de ces publics vulnérables. Pendant une dizaine d'années, on a collé des gens, comme en France, dans des bed and breakfast, en sachant que le marché immobilier londonien et le marché des hôtels est à peu près 50% plus cher qu'à Paris. Et puis au bout de 10 ans, il y a eu une réflexion qui a été engagée, qui partait d'un constat économique, qui était que ça coûtait trop cher et qu'on pouvait faire mieux pour moins cher. Ce mieux pour moins cher, c'était la sous-location dans le privé, qui a abouti à l'hébergement en logement temporaire de 100 000 ménages en Angleterre, dont 60 000 dans le Grand Londres. C'est-à-dire que des associations louent des logements dans le privé au prix du marché, les sous-louent à des familles, et l'État et les collectivités locales payent le complément et la rémunération de l'association. Ça, c'est une solution pragmatique, mais surtout réelle, parce qu'elle existe ailleurs. Et c'est une façon de sortir les gens des hôtels rapidement. À partir de là, à partir du moment où une alternative aux hébergements se met en place, à ce moment-là, on peut interdire d'héberger les familles à l'hôtel pendant plus qu'une période extrêmement courte, c'est-à-dire grosso modo les quelques jours nécessaires pour que puisse être trouvé le logement de transition qui mènera ensuite à un logement définitif. Et à ce moment-là, on refait du système d'hébergement temporaire dans ces logements un tremplin, et pas un endroit où les gens vont mourir à petit feu pendant des années. Ce que disent les familles dans ces hôtels, c'est qu'elles ont l'impression de ne pas vivre. Elle ne peut rien entreprendre, elle ne peut pas entreprendre de projet, elle ne sait pas où elle sera demain, puisque par ailleurs, évidemment, dans les hôtels, il y a une petite propension des hôteliers à mettre les gens dehors du jour au lendemain, puisqu'ils considèrent quand même qu'ils sont d'abord chez eux, et avant que ça soit la chambre des gens. Donc les conditions de vie, au-delà du matériel, c'est-à-dire l'exiguïté des lieux et les conditions de vétusté de certains hôtels, sont aussi difficiles en raison du lien de domination qui existe avec l'hôtelier, qui les empêche, on va dire, de vivre au quotidien, quoi.
Combien de temps dure l'urgence pour vous?
Quelques jours. Quelques jours, c'est l'urgence. Au-delà, c'est l'urgence, c'est une politique du logement qui me fait défaut aujourd'hui.
Y a-t-il une spécificité française des hôtels meublés dans les grandes villes et particulièrement dans une capitale? Ou est-ce que ce processus historique que vous décrivez avec une apogée dans les années 30, hein, vous racontez dans votre livre que 11% de la population de Paris vivait dans des hôtels à cette époque-là, et puis une lente décrue, et puis avec une situation un petit peu bizarre aujourd'hui, où il y aurait un besoin, mais il n'y a plus les hôtels. Est-ce que ce processus historique, il est, je dirais, original ou il est banal pour les autres pays d'Europe occidentale.
Je pense que c'est un phénomène très spécifiquement parisien, même plus que français. Mais déjà à la fin du 19e siècle, on a des observateurs qui comparent les conditions d'habitat des migrants en ville dans les capitales européennes et qui disent le parisien est individualiste et ne veut pas partager son espace privé. Alors bon, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais en tout cas le logement parisien a toujours été très petit, hein, même au recensement de 54, je crois qu'il y a plus de la moitié des logements qui sont composés d'une pièce unique.
Justement, vous parlez de 54. À l'hiver 54, il y a à ce moment-là une augmentation énorme du nombre de personnes logées. On retrouve le chiffre de 300 000 personnes au moment de cette crise du logement. Hein.
C'est ça. Alors en fait, le secteur s'accroît quand effectivement
le logement va mal.
Le logement va mal.
Et pourtant, c'est-à-dire le logement va mal quand... aujourd'hui et le secteur décroît.
Alors le logement va mal aujourd'hui, mais il va doublement mal parce qu'il n'y a plus de soupapes de sécurité ou disons il n'y a plus cette fluidité qui pouvait exister à un moment, même si faut pas non plus idéaliser le passé, mais qui faisait qu'on pouvait effectivement retrouver un logement à peu près équivalent à celui qu'on laissait, etc. Moi, je crois que le problème essentiel, c'est la hausse des prix. L'immobilier est un secteur qui fait des profits extraordinaires et c'est un secteur en pleine expansion. Je crois que les niveaux de construction sont de nouveau au-dessus de 400 000. Bon, on ne construit pas ce qu'il faut. Alors, il y a un problème de pilotage des politiques publiques.
Il faut pas, l'une comme l'autre, vous dites qu'il faut clairement une volonté politique et que c'est ça qui fait défaut aujourd'hui.
Voilà.
Dernier plan là, qui a été présenté mardi dernier par le président de la République vous paraît apporter des éléments ou des débuts de réponse?
Mais vous savez, on a même du mal à comprendre un peu comment les chiffres sont donnés parce qu'on annonce des mises en chantier qui ne correspondent pas au nombre de logements financés. C'est-à-dire qu'il y a des annonces, il y a des effets d'annonce des politiques qui disent on va financer tant de logements sociaux.
500 000 par an, je crois, c'est ça le
chiffre. Oui, ça c'est l'objectif sur.
500 000 logements, pas 500 000 logements sociaux.
Oui, oui.
Et en réalité, les mises en chantier sont à peine la moitié du nombre de logements sociaux financés. Donc il y a un problème, il y a un problème de terrain, il y a un problème de volonté politique des acteurs locaux, il y a un certain nombre de problèmes, mais qui devraient trouver des solutions. Moi je reviens à ce qui a été dit là sur une des solutions qui est l'appel au privé. Bien sûr, pourquoi pas l'appel au privé, c'est très important il me semble de conserver, voire d'augmenter un parc de locatifs privés pour justement fluidifier les mobilités. On est dans une société où on a besoin de pouvoir changer, où on ne doit pas être obligé d'acheter pour se garantir une sécurité de l'habitat. Mais tout de même, si on multiplie ces appels au privé en passant par des intermédiaires, on va retomber dans ce que vous dénonciez à juste titre tout à l'heure pour les hôtels de tourisme. C'est-à-dire qu'on fait appel à ce que ma collègue Catherine Bourgeois appelle les intermédiateurs. Et c'est vrai qu'on est dans une société où se développent des médiations de toutes sortes, avec y compris des lobbyings. Alors, sur ce que certains appellent le marché de la misère, pourquoi pas, c'est vrai. En tout cas, il y a cette nécessité de faire avec, donc de gérer des budgets de plus en plus importants qui vont sur l'urgence sociale et en particulier le logement. Ça mobilise des acteurs associatifs qui le font bien ou mal. Mais en tout cas, c'est un phénomène de société considérable et certainement à prendre en compte et qui n'est pas forcément un signe de santé.
Benoît de Bureau, vous, en deux mots, ce plan, ce énième plan, parce qu'on a l'impression qu'il y en a quand
Pour vous donner un ordre de grandeur, hein, sur 500 000 logements promis, le nombre de logements très sociaux, c'est-à-dire abordables pour des gens qui gagnent autour du SMIC, sera d'environ 20 000 programmés. On sait que ça arrive à un chiffre d'environ 12 ou 13 000 construits. Voilà, donc sur 500 000 logements, il y en aura 12 ou 13 000 adaptés pour les ménages vraiment en difficulté. Donc on voit bien que c'est pas ça qui va régler la crise du logement.
Il en faudrait combien aujourd'hui ?
C'est pas seulement un nombre de logements, ça dépend aussi du type de logement qu'on construit.
Il faut des grands logements
donc,
aussi.
Donc il faut des grands logements et il faut des logements peu chers, parce que, enfin, des logements sociaux abordables pour les gens qui sont réellement en difficulté. D'un côté, en agissant donc sur le parc social pour essayer de régler la crise. De l'autre côté, on peut penser qu'il faudrait agir aussi sur le parc privé en faisant en sorte que la spéculation diminue et en faisant en sorte qu'évidemment la flambée des prix cesse et en faisant éventuellement en sorte que le prix du logement baisse.
Mais combien de logements manque-t-il aujourd'hui, d'après
vous ? Il manque plus d'un million de logements pour que les gens soient logés.
Plus d'un million de logements sociaux.
Il y a 1,8 million. ménages demandeurs de logements sociaux en France.
Benoît de Bureau, Claire Lévy-Vorellan, merci de votre venue aujourd'hui. Je rappelle le titre de votre livre, Une chambre en ville. Le titre est peut-être plus poétique que la réalité, hein. C'est paru aux éditions Créafis. Des références que de toute façon vous retrouvez sur la page de Microscopie, sur le site de RFI, hein, www.rfi.fr, vous connaissez ça par cœur. Vous pouvez évidemment, comme d'habitude, nous envoyer vos réactions, vos questions, vos colères, vos remarques sur notre adresse électronique microscopie@rfi.fr. Merci de votre attention. Bonne semaine à tous. Au revoir.